Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all.
Parisienne et originaire de Lyon, Ottilia Simon n'est pas seulement la beauté unique qui a fait d'elle la muse parfaite pour beaucoup de designers, mais avant tout, une mannequin française à forte personnalité et d'une extrême bienveillance. De la campagne Hermès au Vogue Paris, en passant par les shows Saint-Laurent, Chanel ou encore Versace, Ottilia a travaillé avec les plus grands magazines ainsi que les plus grandes maisons de mode. On est ravis de la recevoir dans ce nouvel épisode de Cast.
Bonjour Ottilia.
Bonjour.
Hello.
Merci d'être avec nous.
Bah, merci à vous.
On est super content de t'avoir dans le podcast. Bon, tu m'as dit que tu avais un petit peu écouté les autres épisodes, donc
yes.
Tu vois le format.
Ouais.
Donc, on aimerait que tu nous parles de toi et que, bah, écoute, tu commences ton parcours où tu veux, l'école, après l'école, et que tu nous donnes un peu les backstage de la vie de mannequin.
D'accord. Mais je commence par me présenter
voilà.
En quelques heures. D'accord. Alors, du coup, je suis française, lyonnaise. J'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 16 ans. Voilà, j'étais au lycée.
Scolarité parcours, à la cool.
Ouais, parcours facile.
Facile,
normal.
Ah, ça vient, ça va des faciles. Excuse-nous.
Non, mais pas du tout. Mais en plus, j'étais pas très très bonne à l'école. Mais je veux dire, quand je dis facile, c'est
dans
plus...
Dans la moyenne, quoi. Genre, tout
non,
roule,
non, mais...
pas de problème, pas de convocation, pas de...
T'es face à un cancre. T'es face à une première de la classe et
ah,
face
non,
à un cancre. Donc, choisis tes armes.
Non, mais quand je dis facile, c'est-à-dire parcours classique, quoi. Enfin, pas de...
Pas ouais. D'embûche.
Non, mais pas de truc spécial.
Spécial,
pardon. Donc, voilà.
Donc, lycée à Lyon.
Lycée
quoi.
À Lyon, collège à Lyon. Là, je faisais de la gym aussi, à côté, par plaisir.
Depuis longtemps, depuis l'enfance.
Oui, okay. Depuis mes 8 ans, jusqu'à okay. Mes 16 ans. Donc, ça a pris une grosse partie de ma vie. Enfin, une bonne partie, et j'ai
ouais,
adoré
c'était
faire ça.
Passion,
c'était... Ouais, c'était une passion, j'étais pas du tout douée à ça, mais c'était une vraie... Il y avait une super équipe, une bonne ambiance, on était, je sais pas, c'était un à côté, mais c'était présent.
Ouais. Le sport, c'est bien pour former
génial.
Le mental, tout
ah
ça.
Ouais.
C'est,
ah ouais, bah ça m'a beaucoup servi après. Hein,
ouais.
Cas. Et voilà, et vers quand j'avais, donc j'allais avoir 16 ans, c'est là qu'on m'a arrêté dans le métro et que...
À Lyon.
À Lyon, du coup, c'était à la fin des vacances, et voilà, donc on m'a arrêté, on m'a dit... T'as déjà fait des photos, tout ça. J'ai dit non, je connaissais rien. Et du coup, il m'a dit bon bah dis à tes parents de m'appeler. Et à partir de là, mes parents, enfin, je suis rentrée chez moi et je me suis dit bon, vaut mieux que on soit, enfin, ce soit dealé quoi. On est rappelé et on sait qu'est-ce que c'est et comme ça, je passe à autre chose et
ouais.
Tout ça.
Toi, ça t'avait interpellé quand même.
Bah, ça m'avait, ouais, par curiosité ou. Qu'est-ce que c'est? C'est...
Toi, t'avais une vision de la mode, ça t'intéressait à cet âge-là ou tu calculais pas du tout?
Non, alors déjà, j'étais archi garçon manqué.
Ouais.
Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas me lâcher les cheveux parce que pour moi, c'était faire la belle. Donc, j'avais. Puis,
t'étais grande, j'imagine, en plus.
Ouais, j'étais grande. Puis j'ai des frères, donc.
Très tomboy, quoi.
Ouais, basket, pull, ça me suffisait et c'est vrai que j'aimais pas du tout ça, donc non, c'était. Après, bien sûr, je connaissais les grandes marques, les parfums, tout ça. Bien sûr que ça nous titille forcément quand on est jeune parce que c'est présent autour de nous. Mais non, il n'y avait pas de...
Pas d'attrait pour la mode, pour le vêtement et
absolument
tout.
Absolument pas. Mais même, c'était à l'opposé, en fait, de ce que j'aurais voulu faire et de ce que je... vers ce quoi je serais allée. Donc,
Ok, mais du coup, qu'est-ce qui te rend curieux? C'est quoi le... Parce que là, tu me dis, ouais, il fallait absolument que je sache s'il y avait un truc à creuser. Est-ce que c'était...
Ah, c'était plus... Qu'est-ce qu'il veut? Et
ouais.
Comme ça, je me pose plus la question de qu'est-ce que c'est, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
C'était plus, bon, ben, je trouvais ça... En fait, j'ai bien aimé la façon de comment ça s'est passé, de, ben, on t'arrête, et ben, ça sort de nulle part, en fait. Et ça m'a plu, que ça sorte de nulle part, et je me suis dit, ben, ok, bon.
C'est l'aventure, quoi, le truc
on
inconnu.
On va rappeler, c'est bizarre. Du coup, on a rappelé, il se souvenait pas de moi.
Oh merde,
sympa.
Malaise.
Il était là genre, ah bon, qui? Ok, bon bah venez. Et du coup, on a été avec ma maman.
Et ça, c'était quoi, une agence de mannequins?
Non, non, c'était un scout indépendant qui faisait ça tout, tout seul, quoi. Indépendant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce
pour
que
pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai que c'est,
ah oui,
on n'en a pas trop pour parler.
C'est des, on appelle ça des scouts qui ont pour mission de trouver des filles. Et donc, en fait, il voyage souvent, mais lui, il était surtout en France. Et en fait, il, bah, clairement, il se bat dans la rue, dans l'espoir de tomber sur, sur une fille. Bah, mais sur des filles et de pouvoir les
signer dans des agences.
Les signer
après
dans des agences, mais il peut signer plusieurs filles, il peut avoir plusieurs filles dans plusieurs agences. Il n'est pas exclusif, alors qu'il y a des scouts aussi qui font spécifiquement
pour des agences,
pour des agences et qui ont des contrats avec les agences. Donc ça. Donc ça, c'était pas son cas, et du coup on a été avec ma maman.
Tes parents, ils étaient emballés par l'idée ou hyper
réticents? Au début, ils ont cru que je m'étais fait agresser. Oh. Ils m'ont dit, quoi, mais comment ça, on t'a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ah non, mais c'est juste... On m'a demandé si j'avais déjà fait des photos, est-ce qu'on peut juste rappeler? Et donc, du coup, on a rappelé, ils ne se souvenaient pas, et on a eu un rendez-vous, auquel on a été, je m'en souviens vraiment pas très bien. Mm-hmm. Je me souviens juste de quand on est sorti, où là, ma maman, je trouve qu'elle a eu la bonne
réflexe.
Démarche. Elle m'a demandé tout de suite, bon, bah, c'est toi qui décides, qu'est-ce que tu veux faire? Mais elle m'a pas tout de suite, elle, donné son... bon, voilà, moi, je pense que c'est pas bien, ou alors je pense que c'est super. C'était vraiment sa première... C'est, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, j'ai dit, bah, on essaye. Et voilà.
Ah, c'est ouf.
Trop cool. Et de là, du coup, c'est quoi les next steps? Qu'est-ce qui t'avait expliqué?
Next step, du coup, ça, c'était en fin août. Du coup, j'ai rencontré des agences en...
Là, toi, tu sors du lycée, donc c'est après ton bac, c'est ça?
Non, j'avais 16 ans. Je rentrais en première, et du coup, bah, la rentrée, j'ai fait ma rentrée, tout ça, mais... Ils voulaient qu'il y ait un petit temps de préparation avant de me présenter aux agences. Donc, j'ai été présentée aux agences pas avant janvier.
Ok.
Quand tu dis préparation, c'était quoi?
Bah, c'était un peu m'expliquer ce à quoi j'allais faire face. Donc, m'expliquer qu'est-ce que c'était la mode, comment ça fonctionnait, un peu travailler la marche pour se présenter. Voilà, aller discuter. Après, c'est vrai que comme j'étais encore en cours et que je venais de Lyon, j'étais pas toujours sur Paris, donc il fallait aussi que je puisse me libérer. Donc,
ouais, te rendre disponible.
Oui, c'était pas tout de suite non plus. Enfin, j'avais un petit temps où... Puis il avait d'autres filles, donc c'était aussi l'occasion de discuter avec elles, de voir
ça, c'est cool.
Où est-ce qu'elles en étaient, tout ça. Et après, ça n'a pas été avant janvier, où là, j'ai rencontré plusieurs agences, où j'ai signé chez Silent. Et... février, je suis partie pour les défilés.
Waouh, ça c'est une grosse expérience.
Ah ouais, mais je sais, mais encore aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris. Ça me ressemblait tellement pas. Mais c'était tellement nouveau et je pense que j'étais pas très à l'aise à l'école.
Ok.
J'étais pas très très bonne, mais j'étais pas non plus nulle ou cancre. Mais j'arrivais pas à avoir de...
Ah, d'accroche,
de... Je trouvais pas de... Je savais absolument pas vers quoi j'allais tendre, en fait. Donc, c'est vrai que quand ça s'est arrivé, je me suis dit, bah...
C'est une opportunité, faut la saisir.
Ça va me faire voir autre chose.
C'est jeter dans l'inconnu, quoi, franchement. Quand
ouais,
tu
mais
viens
ça,
de
j'ai
Lyon,
bien aimé.
Ouais. Ok.
C'est plus quand tu commences à connaître que traiter la gens. Quand tu te lances, mais c'est vrai, quand tu te lances, c'est chouette. Ça, ouais, c'était cool. Et puis
donc là, tu fais ta première saison de show. C'est quoi, le prêt-à-porter, haute couture?
C'était prêt-à-porter, ouais. Okay. Non, c'était prêt-à-porter. Là, donc je vais à New York.
Ah, donc tu commences direct par New York?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais. New York.
Tu te rappelles de ton premier show?
Bien sûr, je me rappelle de mon premier show. C'était BCBG Max Azria.
Ouais, Max Azria. Wow. Ouais. C'était cool à l'époque en plus. Hein.
Ouais, c'était chouette.
Ton premier casting, tout ça, t'es comment? T'es à l'aise?
Alors, premier casting, c'était pour Calvin Klein, je crois. Non, j'étais pas du tout à l'aise, mais je savais. J'étais à des kilomètres, en fait. En fait, moi, j'attendais qu'on me dise quoi faire. Enfin, j'étais très dans l'attente et l'observation, et je prenais ce qu'il y avait à prendre, mais j'étais pas du tout acteur de quoi que ce soit, en fait. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça. déjà, qu'est-ce que je fais là?
C'est ton premier voyage en dehors de l'Europe? C'est la première fois aux États-Unis ou pas?
C'est... Non, j'avais pris une fois l'avion pour aller en Suède. Mm-hmm. Mais sinon, c'était la première fois que je prenais un aussi long,
vol
et que je me retrouvais à l'autre bout du monde. Et c'était la première
seul.
Fois. Et seul, oui, parce que, en fait, enfin, seul, non, parce que je suis partie avec l'agence et okay. deux, trois filles, mais seul.
Model
oui.
apartment, du coup, à New York.
Alors, non, pas cette fois. Cette fois, c'était. On était avec l'agence dans un petit appartement, on était trois filles. On était. Silent, ils sont pas très gros et j'avais pas signé, en fait, aux États-Unis, donc j'étais partie avec eux. Et comme on n'était pas très très nombreux, on était dans un truc très pratique, très
cool.
Et il y avait Anaës qui était du voyage, donc pour moi cool. c'était
la star.
Ah ouais, mais c'était ouf parce que elle est incroyable, donc d'habiter avec elle, mes premiers shows, de voir ce que c'est vraiment.
Les filles têtes, justement, les filles qui sont, tu leur poses un peu des questions ou t'oses pas trop, parce que c'est vrai que quand tu commences et que tu vois une fille comme Anaës ou d'autres, mais qui à l'époque sont tout en haut du game, je suis pas sûr que ça soit facile d'aller lui demander des conseils aussi.
Alors mon anglais étant à l'époque pas terrible, c'était pas simple, mais elle a toujours été hyper bienveillante avec moi et depuis cool. le début et c'est vrai que c'était chouette vraiment cool d'avoir une si incroyable mannequin qui faisait tout et ouais, non, c'était cool ça. Donc du coup on était dans un petit appart, c'était très très mignon.
Ok, donc tu fais ton premier show. C'est quoi quand t'es dans le line-up avant de commencer, la pression,
non.
le track, le, où tu
alors,
coupes.
Le souvenir que j'ai pas le souvenir d'avoir été nerveux. J'ai même pas le souvenir du moment du maquillage, de tout. Je me souviens pas de ça. Je me souviens juste donc quand on a fait la répétition, il y avait personne dans la salle. Donc ça m'avait paru très facile et quand je suis sortie et qu'il y avait tout le monde, je me souviens d'avoir
je un sais track.
Pas non pas un track mais il y avait j'ai vraiment ressenti un truc genre waouh, on sent qu'il y a des gens, il y avait la lumière, la musique et je me suis
un peu
pris
c'est une vraie expérience hein.
Une tension.
Ah ouais, ouais. Et je m'attendais
gens,
pas
aujourd'hui
du
on
tout.
Les regarde sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, on regarde les autres, mais quand tu le vis vraiment le show, c'est un peu comme un concert, c'est un peu comme le sport. Tu regardes à la télé, mais c'est jamais la même sensation que quand tu le vis au stade ou pour le show dans le
lieu
du défilé.
En plus, j'avais les mains dans les poches, donc je savais pas marcher avec les mains dans les poches. C'était hyper. Enfin, c'est un autre une autre balance à avoir. Et ouais, non, je me souviens que ça m'avait pas un peu coupé la respiration, mais genre ah ouais. Et,
impressionnant.
Et du coup, après, c'est très vite fini, mais c'est vrai que.
Un seul look.
Ouais, un seul look, mais on a envie d'y retourner du coup. C'est vrai que c'était un super souvenir.
Ok, donc là, ça s'enchaîne. New York, tu fais plusieurs shows, tu fais qu'un show c'est...
Non, je fais un deuxième show, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on apprend que, après, en fait, que j'avais fait un casting pour Saint-Laurent avant, je crois, ou après. Bon, je me souviens plus trop de la timeline, mais j'avais vu Saint-Laurent et en fait, ils me prennent en exclusivité pour Paris-Europe.
Waouh.
Donc du coup, là, on a décidé de rentrer et de faire l'exclu. Non.
Tu commences par une exclu Saint-Laurent en Europe, c'est beau.
Non, c'était magnifique. En plus, c'était Stefano Pilati. Et il était adorable. Je me souviens, il me disait, mais je suis comme ton grand-père. Enfin, essaye les vêtements. Et moi, j'étais tellement timide. Quand j'y repense, c'est... Enfin,
là, t'as, 16-17, t'as toujours 16-17 ans.
Bah, j'ai toujours 16 ans, ouais.
Ah ouais.
Où je le referais complètement différemment, mais c'était super, c'est cool.
Ok, donc tu rentres en Europe, tu fais donc ce show Saint-Laurent exclu, t'ouvres, tu fermes ou c'est juste une exclu
Alors non, je devais... Non mais ça devait être une exclu de malade. Et alors en fait, je devais ouvrir et fermer, je crois. Mais en fait, j'étais trop musclée. Donc ça les a un peu titillés.
Ok.
Et je devais aussi faire la campagne.
Ouais, normalement avec une excuse, ça va avec.
Oui.
Surtout à cette époque-là.
Sauf que j'avais 16 ans et qu'à l'époque, les photographes ne voulaient pas shooter des filles de 16 ans. Donc les photographes ont refusé et du coup, j'ai pas pu faire. Donc j'ai fait que le défilé.
Déception, ça, un peu quand même.
Bah ouais, mais après, je trouve que c'était bien parce que c'est vrai qu'à 16 ans, on peut pas être une femme. Donc, enfin, c'était dur pour moi de.
Ouais, surtout l'esthétique Saint-Laurent, ça a toujours été un truc un peu quand même sexy, très féminin.
Quand même, enfin, c'est vrai qu'il y a une vraie, enfin, une vraie esthétique et je regrette pas qu'ils aient dit non. Bien sûr. Parce que je sais pas si j'aurais su à cet âge-là. Et surtout, enfin, voilà, encore une fois, c'était.
Ça aurait été ton premier shoot en plus.
Ça aurait été mon. Oui, ça aurait été mon premier shoot, ouais. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, enfin, c'était très dur pour moi aussi de poser devant la caméra. Enfin, c'était tout un monde hyper nouveau, donc c'est pas mal qu'ils aient dit non. Après, c'est sûr que j'aurais adoré. Hein. C'était magnifique sur le papier, mais et voilà. Mais bon. Bon, du coup,
non, c'était écrit comme ça en tout cas.
Ouais.
Et tu retournes à l'école du coup. C'est quoi le truc, genre tu retournes en cours avec tes copines de classe et toi tu reviens de New York où t'as défilé.
Ah ouais, mais
c'est,
sauf que j'ai rien dit à personne.
Ah, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme
aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et puis moi je voulais pas en parler en fait. C'était.
Ah putain,
j'avais un peu honte en fait.
Parce c'était pas ta personnalité, c'était pas ton.
Oui, j'avais l'impression que c'était vraiment. Je sais pas. J'avais pas envie qu'on me voie et en disant ça j'avais l'impression qu'on allait me tomber dessus et que du coup j'avais très peur que ce soit mal interprété donc j'ai rien dit, je suis rentrée, je l'ai dit à il y avait quelques copains et copines qui étaient au courant mais
ouais, ton cercle proche quoi,
mais j'avais rien dit au lycée, j'étais partie comme ça, après on l'a dit au prof et tout mais c'était pas
ah, c'est marrant ça.
Ah non, c'était caché, il fallait que ce soit caché, il fallait que ce soit sage.
Ah, aujourd'hui, c'est l'inverse. N'importe qui fait n'importe quoi, il faut qu'il le crie sur les toits.
Oui, c'est ça. Pas mais c'est vrai qu'il n'y avait pas. Il y avait, enfin, c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Instagram. C'était super. C'est tellement autre chose maintenant.
Donc, tu as ces premières expériences-là, mais comment ça se traduit après dans ton quotidien? Du coup, tu retournes à ta vie à Lyon, il se passe quoi? Tu as d'autres options? Tu as d'autres jobs?
Ouais, donc du coup. Bah, c'est vrai que ça commence à prendre pas mal de place dans ma tête parce que c'est tellement de nouvelles expériences que du coup je décide quand même de continuer. Enfin, je me dis bon bah ok, on va voir où
bien,
ça va, ça commence bien,
on
a des bons signaux, je suis motivée. Voilà, non, mais je continue, je vais continuer à aller au lycée.
Tu passes ton bac quand même?
Bah, j'ai passé le bac, oui, je l'ai pas eu.
Welcome to the team.
Voilà, j'ai eu 9,64.
Ah, oh, moi j'ai fait 9,97.
Non, oh, ils te l'ont pas donné.
Ouais, bah, à cause de mon dossier.
Arrête.
Oh, il y avait écrit en majuscule interdit d'avoir son bac.
Non, c'est une blague.
Non, c'est vrai.
Interdit de bac.
Mais si t'avais eu 10, ils te l'auraient donné?
Bah, ils n'auraient pas eu le choix.
En fait, c'est
ils n'auraient pas eu le choix, du coup.
Non, c'est pire que ça, c'est qu'au rattrapage, on m'a mis, genre, je sais plus quelle, une des matières, je crois, en histoire, on m'a mis 14. Enfin, le mec, il m'a dit je te mets 14, et il m'a mis 13, en sachant que ça allait faire 9,97.
Oh, ouais. Bâtard.
Et après, tu sais, il regarde ton dossier, moi, mon dossier était rouge écarlate, comme on appelle ça.
Bah, moi, les profs, ils avaient mis des trucs dedans, tu vois, un peu... elle est motivée, même si elle n'est pas là souvent, elle essaye de s'accrocher, parce que j'ai essayé vraiment de m'accrocher. Et comme j'étais en S, les maths, c'est pas passé.
Ah ouais, en plus en S, ouais.
Et du coup, voilà. Et du coup, après, j'ai décidé de le repasser en candidat libre en bloquant, tu sais, tu peux bloquer des notes et repasser que quelques matières.
Et c'est pas passé non plus.
Et ben, les maths toutes seules, c'était. Non, du coup, c'est pas passé. Et du coup, je l'ai pas. Et bon, du coup. Voilà.
T'en fous.
La vie continue.
Ouais, mais les gens, ils aiment bien.
Moi, c'était le rêve de ma famille. Moi, il y a personne qui a le bac dans ma famille. Donc, c'était genre.
Non, mais là, c'était vraiment. T'étais plus près que moi quand même. Parce que 97. 64 encore, ouais, tu te dis bon, dur. à 40 centièmes, tu te dis là, à 3.
Ouais. Bon. Je dirais pas les coulisses de ma réception de cette nouvelle.
Ah, moi j'ai beaucoup pleuré, hein, je me souviens.
Non, moi j'ai pas pleuré, mais bon, j'ai extériorisé autrement. Bref.
Ah oui.
Ok, donc du coup tu te décides d'aller full time dans le mannequinat, j'imagine.
Oui.
Et tu viens vivre à Paris, c'est ça l'étape d'après?
Oui, je viens vivre à Paris.
Ok, donc tu rentres dans une discussion. Tes agents, c'est que comment ça se passe avec tes agents, tu vois, au moment où tu te professionnalises, du coup?
Je crois que ça s'est fait un peu tout seul. Hein.
Ouais.
Enfin, les choses sont un peu. J'ai pris ce qui se passait et j'ai pas tellement fait de plan sur la comète non plus.
Ok, donc très laid back.
Ouais.
Mais souvent, c'est
mais
ce qu'on dit aux
filles.
Mais il
fallait être à Paris quand même. Parce
ouais,
que...
ça, bien sûr.
Parce que c'était compliqué, les allers-retours en train.
Ouais, bien sûr.
En vrai, t'es quand même mieux
Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes grosses étapes de carrière après? Donc, j'imagine qu'après ton exclu, tu refais une full saison où tu fais tous les shows?
Alors, non, pas du tout. Je vais pas vous vendre du rêve tout de suite.
Mais non, justement, nous, on est là pour dire la vérité, donc tant mieux.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, l'exclu Saint-Laurent, j'ai fait une campagne pour Costume National à New York. J'y suis retournée avec Glenn Lutchford.
Wow.
Ça, c'était super, mais c'était mon premier shoot, en fait. Mm. Et je me souviens, je crois que j'ai pas ouvert la bouche. Enfin, j'ai pas parlé, j'étais tétanisée, je parlais pas anglais, je savais pas.
Ouais.
Donc, bon...
Glenn Lutchford, qui est un photographe iconique. Pour
magnifique, enfin, ouais. c'était génial. Et après ça, j'ai fait un Vogue anglais avec Paolo Roversi.
Wow.
Et là, pour le coup, Paolo il m'est tellement à l'aise que ça m'a aussi un peu...
Ça te détendre un peu.
Ouais, où je me suis dit...
Toi, tes premiers shoots, c'est Glenn Lutchford, Paolo Roversi. Ok, merci. Tu sais te détendre.
Non, mais ça, c'était... Ouais, c'était... Franchement, c'était cool. Du coup, Paolo, franchement... Je me souviens encore une fois, je ne savais pas faire. Enfin, je veux dire, les photos aujourd'hui... Elles sont assez droites, quoi. Enfin, ouais. C'était pas...
T'as pas les poses et les attitudes que t'aurais aujourd'hui.
Et je savais pas quoi faire. Honnêtement, je savais pas quoi faire. Mais il était tellement gentil que du coup, ça m'a aussi un peu motivée à continuer, quoi.
Ouais, t'as l'envie de faire mieux. Du coup, tu comprends qu'il faut que tu progresses comme dans un sport ou...
Ouais.
Ok.
Mais du coup, comme pour revenir, j'étais un peu musclée, dû à la gym, en tout cas.
Ouais, bah oui.
Du coup, ça a un peu mis un temps d'arrêt, en fait, pour la Fashion Week d'après. Du coup, il a fallu un peu de temps.
Pour que ton corps perde
ouais,
du muscle.
Ouais, mais c'est un peu compliqué le muscle. Qu'est-ce qu'il faut faire à part attendre Il n'y avait pas grand chose à faire, à part faire des étirements.
Ouais.
Comment tu le prends, toi, ça, cette demande de, tu vois, changer un corps qui, en fait, est hyper sain, tu vois?
Ouais, complètement.
Est-ce qu'on te demande pas de mincir, de perdre du gras, de trucs, ce qui est déjà une demande assez gueudin, surtout quand on voit le poids de forme des mannequins à la base, à qui on demande de perdre du poids. Mais te demander de perdre du muscle, c'est encore une démarche qui est complètement, tu vois?
Ouais.
À cette époque-là, la mode n'est pas du tout inclusive en plus, quoi. C'est vraiment hyper strict. Toi, t'es tombé dans la période où
il
faut rentrer dans une taille zéro, quoi.
Ah ouais. Puis c'est vrai que c'était. Ouais. En fait, je l'ai pas vécu. En fait, je l'ai vécu mal dans le sens où je me disais, bon, je peux.
Ça t'empêche de travailler.
J'ai pas un gros moyen d'action dessus, en fait. Ouais. Donc, à part attendre. Enfin, Puis je comprenais pas parce que pour moi je me voyais pas du tout musclée, en fait. J'ai toujours été très à l'aise dans mon corps et je pense que la gym ça m'a aidé à ça, en fait. Être en juste au corps.
Bien sûr.
Et puis c'est vrai que le sport aussi, ça. Enfin, on est quand même conscient de son corps. Mais je me suis jamais sentie mal dans mon corps. Mais c'est vrai que je comprenais. Enfin, je savais pas quoi faire, en fait. Moi je voulais travailler donc. À partir du moment où on me disait, ben non, trop musclé, qu'est-ce que je fais? Après, c'est vrai que ça incluait pas beaucoup la nourriture, en fait. Parce que c'est pas tellement, enfin, il y avait les protéines, peut-être à... Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Donc...
Ouais, tu prends ton mal en patience, du coup, et go, quoi.
Oui, après, ça m'a... Oui, c'était aussi, encore une fois, bien pour avoir une progression douce. Après, je pense que ma carrière, c'est ça, surtout. C'était vraiment une progression douce et je suis contente que ça ait été comme ça et pas été tout de suite on fire. Mais j'ai toujours fait des trucs bien, ça, c'est sûr.
C'est pente douce, mais qui commence avec colorosité. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène, surtout ces dernières années, de filles qu'on propulse tout en haut, très jeunes, qui disparaissent deux saisons après. C'est vrai que toi, ta carrière, elle n'est pas du tout comme ça.
Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas des filles qui ont commencé avec moi. Il y en a très peu qui sont encore là.
Toi, quand tu as commencé, c'est quelle année, tu te rappelles?
2010.
2010, ouais.
Ouais. 2010. Et j'ai l'impression qu'il y avait moins de filles aussi.
Il y avait beaucoup moins de filles, ouais.
Parce que, je trouve que ça... C'était un grand groupe, mais...
Tu te fais des copines à cette époque-là, justement, parce que...
Ouais. Bah, du coup, ce qui était super à cette époque, je trouve, et que je retrouve pas aujourd'hui, mais aussi parce que je suis beaucoup moins sur les défilés et tout ça, mais à l'époque, Après, je trouve qu'encore aujourd'hui, toutes les filles sont hyper bienveillantes entre elles, mais il y avait beaucoup moins de groupes, je trouve. Mmh. Et je me souviens que quand je suis arrivée, même les plus grosses tops, il y avait Anya Ruby, Kabeli Kershaw, Natasha Poli, toutes ces filles, Joan Smalls, qui explosaient à ce moment-là.
Bien sûr.
Mais elles étaient tellement gentilles avec toutes les filles, tout le temps. En fait, on se sentait vraiment inclus tout le temps. Et je trouve que ça, aujourd'hui, il y a moins. Les filles qui marchent très, très bien, elles restent très entre elles. Et...
Ouais, maintenant, tu sais, c'est le truc où tu as aussi les agents qui disent « Faut que tu sois avec les meufs cool ». Tu vois, il y a ce groupe de meufs cool que tu vois sur Instagram.
Ouais, c'est Instagram c'est aussi, beaucoup. Ouais,
et tu dis « Ah, si j'en fais partie, les clients vont m'identifier comme une meuf cool. » Donc, il y a très peu de choses qui sont genuines aujourd'hui, malheureusement, je trouve. En tout cas, sans faire le vieux con, je sais qu'il y a plein de meufs qui sont copines entre elles et que c'est real, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc maintenant de « Est-ce que tu fais partie du groupe des meufs cool ou... ?»
Ouais, un peu. Ah, c'est vrai que, du coup, les filles actuelles... Comme je n'ai pas fait les défilés, j'ai pas fait de grosses saisons de défilés et qu'en shoot, en fait, je les croise rarement. Mm-hmm. En fait, je ne les connais pas, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que tu les rencontres pas forcément, alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus, plus easy. Mais j'ai oublié la question.
Non, il n'y avait pas de question.
Sur les amitiés, juste pour te demander.
Ah, oui, donc du coup, à l'époque, je me fais des copines.
Cool. Et c'est quoi, donc là tu commences à avoir 18, 20 ans, c'est ça, genre, ça
donc là 18 ans, c'est là où vraiment ça commence, où je fais des grosses saisons de show, où je voyage beaucoup plus.
T'apprends comment c'est justement ce changement de vie où, enfin, je sais, voilà, quand tu commences à vraiment marcher, tu voyages beaucoup, tu te retrouves seule. C'est psychologiquement et tout, de l'autre côté, du côté perso, tu le vis comment?
Alors, avant, au début, donc je pense les 6, 7, 8 premières années de ma carrière, quand même. Non, mais oui. Du coup, j'adore voyager, j'adore être dans l'avion. Je me rends pas compte, en fait, je crois. Franchement, j'étais vraiment...
J'étais
contente. C'est maintenant où je le ressens plus, en fait, de voyager seule. C'est différent. L'avion, c'est plus mon truc du tout. J'en ai marre. J'ai même eu peur de l'avion maintenant. Enfin, je suis pas à l'aise. Mais avant, non, c'était... C'était l'aventure.
Qu'est-ce qui a fait, enfin, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic-là, à ton avis? Est-ce que c'est toi, ton envie de te poser un peu, de ralentir, d'avoir des attaches et tout? Ou il y a un autre événement, il s'est passé un truc spécial?
Non, je pense que l'avion, quand on prend beaucoup au bout d'un moment, c'est usant. C'est usant,
C'est un peu pour le corps. Hein.
Ouais, pour le corps, mais pour nous, c'est comme on prend le métro, en fait. Enfin, je veux dire, je vais dans un pays pour 24 heures. Et entre-temps, le temps que j'arrive chez moi, il est immense. Et je suis dans des transports, je suis dans l'attente, je suis dans des endroits qui sont pas... Enfin, un aéroport, c'est pas très confortable. Enfin, c'est dur de...
Ça n'a pas de vie, en fait. Hein. C'est froid. C'est hyper froid.
C'est froid et c'est dur de se vider la tête, quoi. Enfin, donc, je pense que c'est au bout d'un moment où... Mais bon.
Cool. Bon, donc sur ces 6 premières années, sur le début, comme
8,
tu dis, 10.
6, 8, 10.
c'est quoi les gros trucs que tu as fait, que tu as adoré, ou des trucs que tu estimes qui t'ont fait progresser dans ta carrière, dans ton niveau, 2-3 step-up que tu penses qui ont fait une diff?
Qui ont fait une diff? J'avais fait la campagne L'An 20.
Avec Albert Elbaz?
Avec Albert Elbaz et Steven Meisel.
Waouh.
Et il y avait des serpents sur ce shoot. Et j'ai la phobie des serpents.
Oh merde.
Mais je l'ai fait. Je sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et ça, c'était un gros, gros shoot pour le coup. Parce qu'il y avait vraiment. On était 3 mannequins, il y avait 10 serpents. Il y avait une. Enfin, c'était. La prod était énorme, en fait. Et là, c'était vraiment un gros shoot où je me suis dit, waouh. Ouais, enfin, bon, déjà, Steven Meisel, goal.
Ouais, goal ultime de tout le monde.
Donc, waouh. mais avec la petite pression des serpents en me disant putain c'est un sacré test parce que si je me plante il va jamais me reprendre.
C'est clair.
Mais du coup ouais c'était ça, c'était clairement enfin...
Ah mais Steven Meisel de toute façon c'est le truc que chaque fille après quand tu passes entre ses mains boum.
Ouais mais là, j'ai jamais fait seul avec lui, j'ai fait deux fois et c'était à chaque fois des gros groupes. Mais ouais incroyable.
Ouais, super expérience.
Ouais, ouais, vraiment.
Du coup, comment tu fais ta culture mode? Parce que tu nous parlais des tout débuts où tu t'intéressais pas forcément ni à la mode, ni à l'univers, ni au photographe, ni à tout ce qui peut en faire partie.
Mm-hmm.
Et là, tu parles de gros photographe, tu vas en disant c'est le goal, c'est le truc. Comment t'as fait ta culture mode du coup?
Du coup, c'est vrai qu'Internet, on a de la chance aujourd'hui. et c'est vrai que Models.com était déjà là.
Ouais, ils sont là depuis.
Et du coup, j'ai saigné Models.com, je crois.
Ouais.
Mais vraiment, je tapais un photographe et je regardais tout son travail. Et il y avait aussi les Fashion Spots.
Ouais, c'est Fashion Spots, c'est un gros forum. Ça existe encore, hein?
Ouais, ça existe encore, mais c'est génial. Ouais. Parce que après, il y en a sur tous les photographes, il y en a sur les magazines, sur les mannequins. Donc. Ça permettait un accès à de l'image qui était énorme. Et c'est vrai qu'il y avait tout. Il y avait tout sur ces deux trucs. En fait, je pense que j'allais surtout là. Et j'allais sur Fashion Copious aussi.
Okay.
Mais je crois que ça n'existe plus.
Non, ça me dit rien.
Et ça, je crois que ça. En fait, ça. C'est un peu comme Fashion Gone Wrong.
Ouais, oui.
Je c'est un peu le même style.
Ah, c'était en mode comme un blog, mais avec les
Images. Mais avec l'actualité, en fait, des campagnes et tout. Donc,
ouais, dès que ça sortait, t'avais un film.
C'est comme ça que je trouvais mes campagnes, mes trucs, en fait. C'était là-dessus, avant Instagram, tout ça, et ça arrivait là-dessus. Enfin, il fallait une connexion, un ordi, quoi.
Très bien.
Et ça, c'était cool. Et puis après, oui, après, bon, il y avait plein de livres aussi à acheter, hein, plein de... C'était facile, hein. Ouais. Après, une fois qu'on était...
Ouais, tu t'es intéressé parce qu'il y a des filles qui s'en battent les couilles, quoi. Ouais.
Ah, mais je pouvais pas... En fait, je me suis dit, déjà, j'arrive dans un monde où les gens sont plus vieux que moi.
Mm-hmm.
Ils ont beaucoup de références que je n'ai pas. Mm-hmm. On n'est pas de la même génération, mais il faut quand même que je puisse savoir de quoi on parle. Et puis, ça m'intéressait aussi, hein, mais... Dis non, il faut quand même que je. Puis j'avais envie de connaître, j'avais envie de savoir.
Non, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas une démarche que tout le monde a, c'est pour ça que je te posais la question de comment.
C'est venu assez naturellement, je pense, que c'était un peu. Il faut que je sache avec qui j'ai affaire, en fait.
Ouais, c'est une problématique dont plein de filles ne se rendent pas compte, en fait. Du décalage de culture, du décalage d'âge et de référence, quoi. Et c'est très malin d'avoir fait tes recherches perso, quoi.
Bah, après, il y avait aussi l'envie de... Parce que ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment créer une image. Donc, il y avait aussi... C'est vrai que quand on arrive sur un set, le photographe, la styliste, il faut connaître son travail, en fait.
C'est hyper important.
Si on veut un peu... Parce qu'au final, on est là pour entrer dans leur univers. Donc, faut aussi s'y intéresser. Et ça, c'est une partie que j'adore, en fait, de justement savoir un peu. Et puis... C'est hyper grisant parce que plus on regarde leur travail, plus on se projette et on se dit mais comment eux ils vont me traiter, je vais faire partie de quoi en fait dans leur univers et ça c'est trop cool. Donc si on s'y intéresse pas, je trouve que on perd un petit peu du voyage, quoi.
Non, c'est trop bien comme approche.
Je capte. Toi, tout au long de ta carrière, t'es une Française, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de mannequins françaises qui ont duré aussi longtemps que toi. T'as senti du love, enfin, les marques françaises, elles ont été attirées par toi ou c'était plutôt... Je te dis ça parce que moi, j'ai une longue relation amicale et professionnelle avec Anaïs Mali.
Mm-hmm.
Je sais pas si tu vois qui c'est.
Oui, très bien, j'adore Anaïs.
Ouais, on lui fait un bisou.
Bisous.
et c'est vrai qu'elle a eu besoin de partir aux États-Unis pour exploser, pour qu'en France, on lui donne l'heure. Tu vois, est-ce que toi, c'est une fille qui est racisée, donc il y a aussi une autre problématique de marché à l'époque. Mais est-ce que toi, comment ça a été ta relation avec le marché des clients français?
Alors, j'ai eu de la chance déjà parce que j'ai fait partie de la maison Hermès pendant plusieurs années, plusieurs campagnes, j'ai fait un parfum aussi, donc ça c'était maison française magnifique, c'était génial. Mais je trouve que en France, c'est quand on est français, on a tout le temps besoin de prouver.
Ouais.
Alors que quand on va aux États-Unis ou par exemple, les États-Unis, ils poussent vraiment leurs filles.
Ouais, tous les marchés.
Oui, en vrai, tous les marchés.
Ouais,
et c'est vrai que quand on, enfin, il faut prouver, et quand on a prouvé, il faut encore prouver. Et du coup, ouais, c'est pas le plus clément des marchés, je sais. Du tout.
C'est vraiment une analyse qui m'a longtemps choqué parce que tu vois, tu prends le marché anglais, le marché italien, toutes les filiales italiennes, elles font tous les clients italiens.
Exactement.
Toutes les filles anglaises font tous les clients anglais. Et c'est vrai qu'on a ce truc en France qui est en train de changer, je trouve, depuis un an, deux ans. Puis là, ce que fait Vogue France, je trouve que c'est génial de mettre des Françaises en avant. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc de chez nous.
Mais même pas que les mannequins, hein. C'est photographe, c'est tout. Hein.
Ouais, ouais.
C'est presque qu'il faut réussir à l'étranger et après on est...
Ouais. T'es pas sexy quand t'es du pays, quoi.
Ouais, ou alors il y a cette... la barre est très très haute, en fait. Très haute. C'est fou. Ouais.
Bon bah cool, donc toi, ta carrière, elle continue, donc tu nous parles de ce...
De
l'an 20. Est-ce qu'il y a un autre gros truc que t'as en tête qui a été pour toi... Genre un goal ou quelque chose que t'as tellement kiffé faire dans tout ce que t'as pu faire, je veux dire.
Dans toute ma carrière ?
Ouais.
Bah, le parfum Hermès, c'était incroyable parce que j'avais... En fait, on devait travailler avec un chorégraphe, Angelin Prège-Locage. Et du coup, le thème, c'était... Enfin, le thème, le storyboard, c'était que je danse sur du sable. Et du coup, j'ai fait 2-3 cours de danse avec une de ces danseuses. Et le jour du tournage, c'était génial. En fait, ça s'est tellement bien passé et je me suis tellement amusée. Et c'était...
Toi, tu t'es amusée sur une campagne de parfum. Il n'y a pas beaucoup
mais
de filles
avec
ça. Arrive,
alors après, on me voit pas beaucoup. C'était assez... c'était un plan fixe et c'était assez... J'avais un peu une phrase chorégraphique à faire. Donc c'était très... Enfin, j'étais libre, mais... C'était pas le faut mettre le parfum là et qu'on voit le parfum, il faut que ce soit... C'était vraiment une danse, en fait. Donc même, on me reconnaît pas vraiment sur la vidéo, mais l'expérience était géniale. Était géniale, vraiment.
Petite question, est-ce qu'il y a un goal dans ta carrière que tu t'étais fixé au départ et que t'as réussi à atteindre ?
Yes. Allez. Bah, le Vogue Paris, c'était quand même un... Français, donc Vogue France, Vogue Paris, c'était pour moi le goal ultime, quoi. Française, il fallait que je coche cette case, quoi.
En plus, ils n'ont pas eu beaucoup de Françaises, Il y a eu Emeline, Anaïs.
C'est vrai que depuis Inès de la Fressange, qui a vraiment marqué le mannequinat français, en France, on parle surtout d'actrices, en fait, qui sont des égéries de marque. C'est vrai que... Ouais,
te rappelles de la request du casting quand ça arrive, c'est comment t'en es où dans ta carrière quand ça arrive, cette option là
c'est marrant, j'arrive pas trop à remettre exactement le moment dans ma carrière où est-ce que j'en suis. Je me souviens très bien, j'étais dans un aéroport, pardon, et je reçois là, j'étais en plus au Maroc, je crois. Et je reçois là un email avec demande Emmanuel Alt, David Sims.
Oh putain.
Et du coup là, c'était big. Mais après, avant ça, j'avais fait une fois avec Suzanne Kohler, qui elle m'avait mise en fait dans le magazine la première fois pour de la beauté.
Ok.
Ah, avec une beauty story.
Ouais, avec une beauty story.
Mais là, David Sims et Emmanuel Alt, c'est main fashion story, le goal.
C'était incroyable.
Ça shoot à Paris, ça shoot à Londres.
C'était à Londres, ouais.
Ok.
À Londres.
Mais t'arrives, t'es comment, t'es dans quel mood, c'est...
David Sims, déjà, c'était aussi un big goal depuis toujours. J'adore son travail et puis je l'aime beaucoup lui aussi, aujourd'hui que je le connais. Mais stressée, ouais, parce que on sait pas du tout
à quoi s'attendre.
Parce que, surtout quand c'est quelque chose qu'on voulait, donc... Mais je m'attendais à ce que ce soit très fun, en fait. Donc,
tu vas toujours avec un good spirit sur les shoots, toi, hein?
Ouais, je crois.
T'as ce que tu nous dis, en tout cas.
Est-ce que j'en reviens toujours?
Ça, c'est une autre question.
Je rigole, mais c'est vrai que faire des images. En fait, je savais qu'on allait vraiment faire des images, donc.
Let it go, quoi.
C'est ton gros kiff, ça.
Ouais, c'est le mieux.
Parce que c'est le truc aussi, le Vogue Paris à l'époque, c'est genre tes parents comprennent, enfin tu vois, ouais, genre ça touche au-delà des gens de l'industrie, quoi.
Oui, et puis il y a ce truc de fierté française aussi. Hein.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Vraiment, en fait. Après, bien sûr que Vogue Anglaise, c'était incroyable quand j'ai commencé. Vogue Américain, ce serait aussi un waouh. Mais France, ouais, c'était un peu plus personnel. J'avais l'impression que il fallait, quoi. C'était.
C'est de la reconnaissance aussi, peut-être un peu aussi.
Ouais, sûrement, ouais. Ouais.
Ok. Et j'enchaîne avec une autre question. Est-ce que t'as du coup une anecdote, un truc un peu fun que tu retiens, qui te marque, que tu sors au dîner de famille?
Ah non, pas au dîner de famille. Bah non, je parle pas trop, mais c'est vrai que il y a ce souvenir du casting Versace.
Ouais.
J'avais eu un request, c'était en 2012, je crois. Et je revenais tout juste sur les défilés. Et en fait, donc je fais le request, et le request, ça consiste en fait à voir tout de suite le designer. Enfin, on passe par le casting directeur, mais on est tout de suite présenté au designer, en fait. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, souvent, il vous passe un vêtement, donc du coup, Versace, et vous devez défiler.
C'est le fil tout conforme, là, du coup, c'est ça?
En quelque sorte, c'est okay. Ça. Après, on s'attend souvent, après un request, à peut-être repasser, mais...
C'est déjà bon signe, c'était déjà dans la shortlist du designer. Donc
c'était la shortlist, ouais. Et puis... Voilà,
normalement,
c'est...
si tu fuck it up pas, ça
passe.
Ah oui,
c'est... Si tu ne plantes pas, c'est ça glisse, quoi. Et donc, du coup, je fais ma marche. Et donc, je fais l'aller-retour et je me retrouve devant Donatella et Joe McKenna, qui était le styliste.
Qui est un énorme styliste, hein, pour les gens qui connaissent.
Qui est un énorme styliste. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai fait les Skew Saint-Laurent.
Ok.
D'ailleurs,
okay.
À l'époque. Donc, on est à peu près 2 ans après, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, je tombe d'un étage, en fait, mon pied droit tombe d'un étage, des talons, et je regarde par terre, je regarde mes pieds, et une chaussure est cassée.
Oh, merde.
Et donc je dois rendre la chaussure à Donatella. Enfin, je me vois prendre la chaussure et la donner à Donatella, et lui dire « je suis désolée, j'ai cassé la chaussure », et tout ça devant elle en plus. Donc c'est,
elle fait
c'est...
quelle tête, genre, c'est quoi?
Mais je me souviens même pas, ça sortait tellement du réel que je me vois là à avoir cassé la chaussure, je ne sais même pas comment, à lui donner la chaussure et à repartir presque à cloche-pied.
Ouais, en clopinant du coup.
Ouais, en disant mais putain, mais ça y est, je suis grillée, c'est fini pour moi. Et mais je me souviens même pas ce qu'elle m'avait dit, je me souviens pas.
Et ça a donné quoi du coup?
Bah du coup ça a donné que je suis sortie, j'ai appelé l'agence, j'aurais dit bon bah je crois que ça va pas le faire. Il s'est passé
ma request,
ça.
Ça va être une non-request.
Mais même eux ils en revenaient pas, ils se disaient mais comment c'est possible que ça arrive, quoi. Et après ils m'ont rappelé, j'ai fait le défilé et en fait j'étais pas la seule à avoir cassé la chaussure, donc c'était pas ma faute.
Ah, le défaut de fabrication.
C'était ouais. Cendrillon
ouais,
chez Versace.
C'est ça.
Bon bah ça, c'est un peu ta carrière de mannequin. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de où t'en es, des autres choses que tu fais, tes rôles un peu d'ambassadrice. mais comment ça arrive tout ça? Comment t'estimes que toi, professionnellement et personnellement, t'évolues et que tu passes du statut d'une meuf qui fait des magazines, des défilés, à ce que tu représentes aujourd'hui et la voix que tu peux avoir au sein de l'industrie?
Je pense que je me rends pas vraiment compte de la voix que je peux avoir.
Mmh.
Déjà, je suis pas très Instagram.
Ouais.
C'est pas
ton délire.
C'est pas mon truc et c'est j'y passe du temps, mais j'aime pas trop communiquer. Je suis assez privée, donc de ce point de vue-là, ouais, non, je me rends pas trop compte de ce que je peux transmettre.
Mmh.
Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ces 2 dernières années, bon, il y a eu le Covid et tout ça, ça a aussi vachement aidé aussi un peu à mettre la machine sur stop et se rendre compte un peu d'où est-ce qu'on en est, tout ça. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui me tentent pour l'avenir. Je pense que j'ai envie que ce soit créatif et je veux que ce soit manuel. Et...
passer de l'autre côté.
Je sais pas. C'est encore assez flou, mais okay. C'est...
Parce que t'as une position avec le Holiday Magazine,
ah oui,
c'est ça?
Après, alors ça c'est, oui,
c'est, ouais,
ça,
c'est vers là que j'allais.
Mmh. Ah oui. Bah, alors, du coup, je travaille pour le Holiday Magazine, qui est un magazine de voyage, qui est un très très vieux magazine, qui date de 1946, qui est américain. Et donc
qui a été relancé par Franck Durand, c'est ça ?
Qui a été relancé par Franck Durand okay. il y a, je veux pas dire de bêtises,
4 ans, un truc comme ça.
Non, un peu plus.
Un peu plus, ok. Ouais.
Et
c'est un magazine qui a un très grand format avec de très belles images.
C'est un très grand format, c'est un biannuel, donc c'est vraiment un magazine qu'on collectionne, en fait. C'est donc chaque issue, c'est un voyage, une destination. Et aujourd'hui, ça allie un peu de mode, donc il y a toujours des séries de mode, mais à l'époque, c'était surtout très très voyage.
Ils shootent dans les locations, c'est ça, hein,
le concept, c'est qu'on est vraiment une aperçu du pays, quoi.
Ouais.
C'est un pays par issue ou pas du tout ?
Oui, oui, ouais. Un pays par issue.
Même une ville,
destination.
Je crois,
enfin, c'est une destination. Une destination. Ouais. Ça peut être
une
large,
région,
comme ça peut être.
Ok.
Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je représente un peu le magazine aux événements, je vais au défilé, je suis là pour parler du magazine, en fait.
Ok.
Pour le représenter. Mais je n'ai pas d'action. J'écris pas des textes, je fais pas des histoires, non, c'est pas mon rôle et c'est pas non plus mes envies, et puis j'ai pas les capacités pour ça, c'est pas mon domaine, quoi.
Comment ça se crée, cette connexion entre toi, du coup j'imagine entre toi peut-être et Franck Durand, ou alors c'est quoi le comment t'arrives à ce poste,
c'est un peu arrivé comme ça.
Toute ta carrière, c'est
comme ça.
Je suis là.
Je sais pas.
Les gens viennent, je suis là.
Venez me chercher. c'est lui qui a eu l'idée. Et
vous aviez déjà travaillé ensemble sur des projets ?
Oui, je le connais depuis mes tout débuts, en fait.
Okay.
D'ailleurs, c'était, je pense, un de mes premiers castings. Quand je l'ai rencontré. Mais oui, on a travaillé ensemble. C'est toujours... sur toute ma carrière, je pense qu'il y a eu des étapes, mais on s'est souvent croisés, c'est sûr.
Ok.
Et donc
c'est lui qui vient te chercher avec l'idée, quoi.
C'est lui qui vient me chercher avec l'idée. C'est vrai que j'aurais jamais pensé à ça, et je me suis dit c'est un challenge, pourquoi pas essayer. Puis ça me fait voir aussi un peu un autre côté que je connaissais pas. C'est chouette.
Cool. T'as d'autres trucs comme ça qui arrivent ou qui sont dans le pipe, ou c'est un truc que t'as envie de faire un peu, ce côté ambassadrice, que ça soit pour une marque ou...
J'aime bien le côté ambassadrice, ouais, complètement. Mais non, il n'y a pas d'autres trucs. Après, venez me chercher.
On va donner le contact de Marianne, ton agent.
C'est ça.
Ok, il y a un autre sujet hors mannequinat. Si tu as envie de l'aborder, je sais que tu as pris la parole sur l'endométriose,
oui,
c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Bien sûr. Alors, du coup, l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. C'est une maladie qui est liée aux règles, en fait. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles.
Mmh.
Et du coup, j'explique toute la maladie ou...
Vas-y.
Okay. Pas que je me plante.
Non, mais
sans pression, de toute façon, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a jamais parlé jusqu'à deux dernières années, je dirais.
Ah oui, là ça a explosé, mais
là,
c'est vrai que...
Oui, mais ça fait... Enfin, c'est pas nouveau,
c'est,
quoi.
C'est pas nouveau du tout, non, pas du tout. Et moi, je sais que j'ai su que... je me suis, doutée que j'avais ça parce que ma maman en a eu. Et c'est elle qui m'a dit, peut-être va vérifier, mais...
C'est un truc héréditaire ou...
Alors, on ne sait pas trop, il y aurait peut-être une petite part d'hérédité, mais aujourd'hui, on commence à avoir l'argent pour faire des recherches, mais sinon, c'est encore très, très vague. Mais après, moi, j'ai pas une endométriose sévère, donc je ne peux pas parler pour les femmes où c'est vraiment handicapant.
T'arrives à vivre avec, quoi.
Où j'arrive à vivre avec et c'est pas handicapant, mais non, ça peut être très lourd. Très très lourd, et puis c'est tous les mois,
ce
que
quoi.
Ça enroge. Ouais, mais c'est pas que une fois par mois, c'est aussi psychologique. Enfin, ça touche le psychologique beaucoup derrière. C'est beaucoup de fatigue, des fatigues chroniques, c'est large en fait. La dernière fois que j'étais à New York, j'ai eu carrément mal dans les jambes et c'était lié en fait, et je comprenais pas pourquoi j'avais mal quand je marchais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas une endométriose, chaque femme a son endométriose, donc c'est pas simple, mais je sais plus où je vais aller.
Et toi, ton engagement dans ça, du coup, ça se traduit comment?
Comment ça se traduit? Bah, j'ai fait un podcast une fois avec Cécile Tony.
Qui est, si tu peux peut-être. C'est quoi le podcast peut-être?
C'est mon endométriose. Okay, ça s'appelle mon endométriose. Et Cécile, en fait, elle a le bureau Cécile Tony.
Ouais, c'est un bureau de parle, tendance.
C'est un bureau, bureau de
presse,
de communication.
Ouais, de com. Ouais.
Et en fait, elle en est atteinte. Et un soir, dans une soirée, on s'est croisés et je sais pas comment on est arrivé à en parler de ça. Et du coup, je crois que ça a commencé, avec le Covid, en fait. Elle a eu l'idée de lancer un podcast. Et c'est là, elle m'a dit, écoute, tu peux être la première à parler de mon expérience. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que moi, j'aime bien les témoignages, donc si ça peut aider des gens. Ouais. Et c'est vrai que je reçois des messages maintenant sur Instagram, les gens ils me disent merci.
Bah ouais, c'est
et
important.
Et même des hommes, c'est génial. C'est que ça.
Bah moi, comme vous disiez, avant, j'ai toujours connu des femmes qui me disaient j'ai des règles douloureuses ou des trucs comme ça, mais ce mot-là, je l'avais jamais entendu avant, quoi.
Mais je pense qu'en fait, avec cette maladie, ce qui est encore pire, c'est que en tant que meuf, t'es conditionnée, on te dit en fait c'est normal d'avoir mal. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc de
ah mais c'est les premières choses qu'on te dit.
Ouais, c'est normal, prends un passant, ça va te passer, tu vois.
Oui, c'est peut-être dans ta tête. Et c'est ça, c'est dur à entendre, vraiment, parce que c'est.
Non, on a associé ça avec un truc, c'est normal.
Ça fait partie du truc d'être une femme.
Ça fait partie du truc. Serre les dents, ça va passer. Moi, j'avais plein de copines quand j'étais jeune qui ne pouvaient pas venir à l'école, quoi.
Mais bien sûr.
Tu vois, t'as 12-13 ans, c'est tes premières règles et tout, et tu te retrouves coincée dans ton lit, bouillotte, machin, truc. Mmh. Et en fait, on te dit juste, c'est 2 jours, c'est pas grave, serre les dents et tu reviens dans 3 jours, quoi.
Ouais, c'est ça, il y a des femmes chez qui c'est vraiment énorme et en plus ça peut toucher des organes, ça c'est rare, mais ça peut avoir des lésions sur des organes vitaux et là c'est dangereux. Mais c'est vrai que il y a ce truc où moi je me disais c'est passé, c'est bon, je passe à autre chose, mais derrière ça revient et on se demande, on sait pas ce qui se passe, si on prend des cachets, Nurofen, tout ça, c'est quand même fort.
Et encore, Nurofen, t'es sympa. Parce
mais j'ai peur des médicaments, donc je prends pas en Tavis et tout ça.
Qui prennent des trucs bien, bien plus vénères que ça. T'as ça, et puis t'as un potentiellement aussi un impact sur ta vie de femme, sur la possibilité d'avoir des enfants.
Bien sûr, il y a des femmes qui ont mal pendant les rapports aussi.
C'est
pour avoir les enfants, c'est ça que tu disais aussi.
Oui, pour avoir les enfants. Mais ce qui est dingue, c'est que on parle quand même de l'appareil reproductif de la femme, et on n'en sait toujours pas plus que ça, quoi.
Ouais, on parle de plus de 50% de la population, surtout.
Si c'était les hommes, t'inquiète qu'il y aurait des recherches.
Mais c'est
nous, on avait mal, je peux te dire qu'il y aurait des milliards qui auraient été...
Bien sûr.
On serait perdus si c'était vous.
La société s'arrêterait.
Ah ouais, c'est fini. Des accouchements. Un gars qui accouche, c'est fini. Eh les gars, on n'y va plus jamais.
Désolé. Extinction
de la race humaine. On peut pas.
Ouais, je te jure.
Ouais, donc du coup, j'ai pas une grosse action là-dessus, mais c'est vrai que je communique dès que je peux, j'en parle, je suis très ouverte sur le sujet.
C'est top.
Et puis j'avais fait ce podcast, que c'était cool, mais
trop bien.
Après, je lis tout ce qui. Je lis ce qui se fait dessus, je m'intéresse. Je sais qu'il y a. Ça s'appelle Endo The Wig, je crois. The Wig, qui ont lancé une plateforme où en fait ça. Les femmes peuvent vraiment rentrer tous leurs symptômes, leurs examens et tout. Et en fait, ça leur permet de beaucoup mieux cibler leur prise en charge. Ça, c'est assez nouveau.
Je sais qu'il y a une fille qui est venue aussi, la créatrice de la marque Skinswear, qui parlait justement aussi des applications où tu rentres tes règles, ton cycle et justement comment tu ressens.
Ça c'est un peu ça, sauf que tu peux rentrer aussi tes examens, que ton médecin il peut avoir accès à tout. Moi je l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je rentre les IRM, je l'ai pas encore fait, mais c'est une super plateforme apparemment qui prend de la place, et je pense que quand on a un peu c'est un peu personnalisé au final, parce que ça tend à plus que sur ce que toi tu as.
Ouais.
Je pense que c'est pas mal.
Ouais, c'est clair. Bon bah cool.
Okay,
okay. J'aurais juste une dernière petite question. Est-ce que toi, tu aurais un conseil ou une certaine vision que tu aimerais partager avec une fille qui aujourd'hui écouterait ou pense à devenir mannequin ou est en train de devenir ce qu'on appelle une new face pour durer dans le temps comme toi tu l'as fait?
Je pense que faut vraiment vivre l'expérience à fond, en fait. Moi, je pense que souvent, je j'ai pas assez vécu à fond parce que il y avait des trucs de on veut plus, faut que je travaille, nanana, alors que vraiment, prends tout ce qu'il y a et laisse faire, en fait.
Ouais.
Laisse faire, je pense. Surtout ça, c'est laisse faire, essaie de pas trop te prendre la tête parce que oui, c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de casting, on travaille pas beaucoup, qu'on a du temps libre, qu'on sait pas où ça va, enfin...
Ouais, ça fait juste, se poser des questions, quoi.
Ouais, éclate-toi et fais d'autres choses à côté, surtout.
Ouais, ça c'est un bon conseil. Mmh. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle avec les filles, c'est celles qui cartonnent le plus. Au final, c'est celles qui... Pas qui s'en foutent dans le sens... qui sont pas sérieuses, mais qui ont le plus de recul ou... Ouais, ce qui vient.
Ils sont détachés, ouais.
Ouais, c'est un gros dénominateur commun, en tout cas, moi, dans mon analyse des...
C'est hyper prenant, en fait. C'est hyper prenant et c'est vrai qu'on a vraiment envie de... Enfin, d'avancer, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas dans nos mains.
Bien sûr. Ah ouais, rien n'est dans tes mains, quasiment.
Oui,
quoi.
Quasiment rien. Et du coup, ça peut être frustrant et je pense que... Enfin, pour ma part, parfois, j'ai pas assez pris le maintenant, le présent, et j'étais un peu focusée, mais où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça, c'est bien? Et du coup, je dirais, ouais, juste laisse faire. Et si t'as vraiment envie de le faire, vas-y, quoi.
Kiffe.
Ouais, kiffe, en fait. Kiffe et te prends pas trop la tête. Parce que c'est pas mon cas.
Cool. Parce que c'était mon cas.
Bon, bah, super, on va finir par les petites questions. Tu réponds du tac au tac. Comme tu le sens, ok.
Oui.
C'est un peu dans la continuité de ce qu'on s'est dit. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Je dirais que on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des autres. Ouais. Et du coup.
Be nice.
Ouais.
Est-ce que t'as un talent caché?
Je crois pas. Déjà, je sais pas chanter.
Bah avec
ça,
la gym
sûr.
Tout ça, ouais, tu dois faire
mais
des
j'étais
trucs.
Nulle, attends, j'étais super nulle.
Ah ouais, mais
à la
non,
gym,
je
mais
crois
si
pas.
J'étais trop grande, c'était pas du tout fait pour moi, mais c'était ma passion, mais j'étais nulle. Je te jure, j'évoluais super doucement. Non, mais
c'est vrai qu'il faut être petite, normalement.
Oui, il faut être petite, puis enfin, honnêtement, faut pas avoir peur. Enfin, être sur une poutre et faire la roue, ça fait peur quand même. Donc non, c'était pas un talent caché. Mais je sais pas un talent caché, qu'est-ce que je peux... Si, j'aime bien faire la cuisine.
Ah, voilà.
On va dire que c'est pas un talent caché, mais je sais que je suis en train de m'améliorer, donc peut-être que ça va devenir...
Team Thermomix ou...
Non,
ah, je sais pas, parce que je connais des gens qui s'améliorent grâce au Thermomix.
Ah, non.
Je suis pas sûr que ça soit considéré comme une amélioration. Mais...
Non, pas Thermomix.
Ok.
Est-ce que t'as un guilty pleasure?
Ouais.
C'est quoi?
Le saucisson.
Yes.
Et ça, c'est un vrai gros guilty pleasure.
L'émoji que tu utilises le plus?
Je crois que c'est le cœur. Ouais. Mais bon, je suis très émoji.
Couleur rouge?
Ouais,
cœur rouge?
Couleur... Bah, je change.
Ok.
Ça, je varie. Je varie. Mais cœur, je crois que je peux en mettre 15 d'affilée. Enfin, c'est...
Oh.
Ouais, mais bon.
Bienveillant.
That's cute.
Le dernier compte Insta que tu as suivi ou un compte que tu aimes bien aller consulter? Bon, tu as dit que tu n'étais pas trop Insta, mais est-ce qu'il y a un truc que tu aimes bien sur Insta quand même?
Ouais, pas en cuisine, j'aime bien le chef Simone Zanoni.
Ouais.
Parce que franchement, c'est ça, je trouve que ça décomplexe en fait, parce que déjà, il montre vraiment les étapes, il donne des super tips et en fait. Bah, maintenant, je sais faire des vraies pâtes, quoi. Des vraies pâtes à carbonara, des vraies pâtes au citron. Enfin, c'est ça, j'adore. Ouais. Je m'en lasse pas. Je le regarde et du coup, en plus, il est plein de peps. C'est super.
Il faut bien. Que je suive, je connais ah pas, ouais, faut que cool, j'aille voir. Ça. En plus, moi, je suis un... les pattes, c'est toute ma vie.
C'est vrai, non mais. Ah ouais. Tu sais, en fait, tu les fais d'abord dans l'eau, ça, ouais. Enfin, la moitié de cuisson, ouais. Et après dans la casserole.
Tu finis la cuisson dans la casserole. Exactement.
Mais tout ça, si tu l'as pas vu, c'est vrai que ça paraît un peu abstrait. Mm-hmm. Et du coup, grâce à lui, ouais. Eh ben, super.
On viendra manger des pâtes alors.
Ouais, grave. Et enfin, la dernière tendance. Non, pas du tout. Et enfin, la tendance mode que t'as jamais compris.
Les hugs.
Ok. Je crois que ça a fait un comeback en plus cette année.
Je déteste ça. Je comprends pas.
Il faut un milliard et demi, un truc comme ça.
Mais
c'est
je
genre,
comprends
c'est
pas. Je ouais. Comprends pas. Enfin, c'est confortable, mais c'est cosy, tellement hein. Moche. Désolée, hein, si vous en avez, je suis désolée.
Non.
T'inquiète.
Ok.
Bon, bah super. Merci Oti d'être venu partager ton expérience.
C'est cool.